Alors bonjour à tous, on est le mardi 4 octobre 2022 et on se réunit ce matin pour notre bénédiction matinale, la première de la semaine. Hier j'ai reçu un message qui me disait que certains oublient que dorénavant, et ça fait maintenant 3 semaines qu'on a commencé comme ça, que maintenant les bénédictions matinales sont du mardi au vendredi. Le lundi étant habituellement la journée de congé que j'ai ou que j'avais. Et donc, on essaie de respecter un peu plus cet horaire-là après 2 ans et demi donc de bénédiction matinale quotidienne. Je prends le lundi comme jadis pour me reposer un peu plus, pour essayer de me reposer un peu plus. Donc, voilà pourquoi on se retrouve donc du mardi au vendredi. Vous ne perdez aucun enseignement puisque le vendredi qui était autrefois consacré à la prière est maintenant consacré à l'enseignement le matin. Donc cette semaine, on continue nos bénédictions matinales. On en est rendu à une 10e leçon, comme il y en a certaines qui ont eu A, B, C, D, une autre qui a eu AB, donc on est probablement autour de 16 leçons qu'on a vues jusqu'à présent, mais officiellement donc la 10e leçon sur la thématique « C'est par la foi » basée donc dans Hébreux au chapitre 11. Aujourd'hui, nous allons étudier le verset 20, mais on va quand même voir ce verset dans le contexte auquel il est rattaché dans l'Ancien Testament, donc dans Genèse au chapitre 25 du verset 20 à 34. Je répète, Genèse 25, 20 à 34 et Genèse 27 du verset 14 à 41. Et donc je répète, Genèse 27, 14 à 41. Pourquoi je répète? Je sais que plusieurs d'entre vous prenez des notes. Alors parfois quand on va un peu plus vite, vous n'avez peut-être pas le temps de noter. Il y a toujours l'occasion de réécouter l'enseignement en différé par la suite. Donc aujourd'hui, c'est la vie d'Isaac. On a terminé avec son père Abraham, sur lequel on a passé 4 leçons en soi. Et aujourd'hui, donc, on étudie Isaac dans Hébreux au chapitre 11, le verset 20. Mais prions pour débuter notre séance de ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes, pour cette occasion que nous avons d'étudier ta parole encore une fois et d'être bénis par elle, sachant que celle-ci n'émane pas d'un trône humain, celle-ci n'émane pas d'une sagesse humaine, mais celle-ci est ta pensée que tu as disposée pour nous, mis à notre disposition afin de nous abreuver et de nous nourrir d'elle. Alors ce matin, nous prions d'avoir l'esprit ouvert à ta parole, d'avoir le cœur disponible pour ta volonté, d'avoir nos pensées disposées à recevoir de toi, afin qu'en toute chose, Seigneur, que ta parfaite volonté puisse s'accomplir en nous et à travers nous ou par nous. Donc on te demande, Seigneur, d'étendre ta main, de toucher toutes les personnes qui nous écoutent en direct ce matin et ceux qui nous écouteront en différé, en toute chose que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, je lis pour vous Hébreux 11 tout d'abord, et après ça, on va lire 2 longs passages, mais tout simplement pour qu'on puisse avoir une compréhension correcte des événements auxquels sont liés donc l'enseignement du jour. Hébreux 11, le verset 20, ça c'est tout court. La Bible nous dit « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que qu'Isaac, le père, bénit donc Jacob et Ésaü, ses jumeaux, en vue des choses à venir. » Je tiens à prendre un temps vraiment de lecture ce matin, parce que juste en regardant ce verset, on peut passer à côté de certaines grandes vérités. Est-ce qu'Isaac vraiment a béni Jacob et Ésaü? Oui. Est-ce qu'il les a bénis volontairement? Je vous dirais que non. Et on va comprendre pourquoi il les a pas bénis volontairement. du moins un d'entre eux, et pourquoi la foi se manifeste tout de même et pourquoi la Bible nous dit que Jacob a malgré tout béni qu'Isaac a malgré tout béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Donc je lis pour vous dans Genèse au chapitre 25, les versets 20 à 34 tout d'abord. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, et de Padam Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça Rebecca, sa femme, qui devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher à s'accomplir, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Deuxième passage, dans Genèse au chapitre 27, le verset 14 à 41. Donc là, on vient de lire la naissance de Jacob et Ésaü et la vente, la transaction d'Ésaü vers Jacob alors qu'il lui cède son droit d'aînesse et qu'il méprise ce droit d'aînesse, vend ce droit ou achète ce droit d'aînesse pour une bouchée de potage de lentilles. Genèse 27, 14, 41, c'est maintenant la bénédiction d'Isaac envers ses fils. Et Isaac, parce qu'on va lire dans l'histoire qui est déjà commencée, Isaac annonce qu'il va effectivement bénir son fils Ésaü, son premier-né. La maman, Rebecca, qui aime Jacob davantage qu'elle n'aime Ésaü, va dire à Jacob, ben voilà, va dans le champ, tue une brebis, je vais la préparer, je vais t'habiller des vêtements d'Ésaü, je vais te couvrir de peau d'animal pour que tu paraisses bien velu, ton père est pratiquement aveugle, il ne se rendra compte de rien, tu lui donnes à manger et puis il va te bénir. Donc c'est ce subterfuge qu'on voit ici à travers lequel Isaac va être amené à bénir Jacob au grand dam, bien entendu, d'Ésaü. Alors je lis pour vous Genèse 27, le verset 15, qui nous dit « Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. il vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et il dit, « La voix est de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha, et il embrassa Isaac. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Mais qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec une ruse, et il a enlevé la bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai béni, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu du blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit, « Mon père, n'as-tu que cette seule bénédiction ? « Bénis-moi aussi !» Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob, et à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher. Je tuerai Jacob, mon frère. » Et on s'arrête là. Alors, on vient de faire une longue lecture qui nous parle donc de deux événements. Premièrement, la naissance de Jacob et d'Ésaü, son frère. Ésaü étant l'aîné, Jacob étant le cadet des jumeaux. Ésaü sort en premier. Il est poilu, il est roux. Et Jacob sort deuxième en tenant le talon de son frère, qui a un sens très particulier dans la culture juive. On nous dit que les deux grandissent. Ésaü devient un habile chasseur qui parcourt les contrées et qui plaît à son père parce qu'il ramène à son père du gibier qu'Isaac affectionne tout particulièrement. Jacob, lui, reste dans la tente, dans la maison, si on veut. C'est pas un grand chasseur, c'est pas un gars d'extérieur, c'est un homme tranquille. Bizarrement, lorsqu'on regarde la vie d'Isaac, le papa, et la vie des deux fils, Isaac va porter son cœur vers Ésaü, qui ne lui ressemble pas du tout. S'il y en a un qui ressemble à Isaac, c'est plutôt Jacob, puisqu'on nous dit qu'Isaac était plutôt quelqu'un qui restait notamment dans la tente de sa mère, dans la demeure de sa mère. C'était quelqu'un qui avait la réputation d'être un peu rêvasseur, un peu songeur. Donc, c'est pas quelqu'un chevauchées, des grandes périodes de chasse. C'était quelqu'un qui était tranquille à la maison. Donc, son fils Jacob lui ressemble davantage. Alors, Isaac, bien des années plus tard, du moins, on continue plutôt. Donc, la maman tombe enceinte de ses deux jumeaux. Et puis, dans son ventre, quand on dit qu'ils se heurtent, en fait, c'est qu'ils sont en train de se battre à l'intérieur d'elles-mêmes. Dans son sein, les enfants sont déjà en train de se battre. Et la maman dit, il aurait été préférable que je sois pas enceinte si c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Elle va consulter l'Éternel. On sait pas comment Dieu lui révèle, comment Dieu apparaît à elle, comment Dieu lui parle. Mais Dieu lui dit clairement qu'effectivement, dans son sein, se trouvent deux nations. Et que l'une, la plus jeune, viendra supplanter l'aîné, donc Jacob, éventuellement, viendra supplanter Ésaü. Ésaü qui va représenter une plus grande nation que Jacob, mais Jacob, la petite nation, qui va devenir donc le maître sur son frère. On le voit annoncer à travers la bénédiction d'Isaac des années plus tard. On voit cette prophétie être conclue, être réalisée. Entre-temps, les deux enfants grandissent. À un moment donné, Ésaü va à la chasse et il revient et il est affamé. Et la Bible nous dit que Jacob est en train de préparer un plat de lentilles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime les lentilles et j'ai particulièrement, je crois, une recette que je fais assez régulièrement de soupe de lentilles qui est, on me dit, très délectable, que les gens apprécient. Foncièrement, je l'apprécie moi aussi. Toutefois, un plat de lentilles, c'est pas un plat de filet mignon, là. Un plat de lentilles, c'est pas du homard. Un plat de lentilles, c'est pas du steak wagyu ou Kobe ou autre, là, c'est pas une pièce de viande chère. Un plat de lentilles, c'est quelque chose de simple. Et même à l'époque de Jacob et Ésaü, un plat de lentilles, c'était tout simplement un espèce de repas du milieu de la semaine où on fait pas trop d'efforts, on cherche plus à se nourrir qu'à se délecter. Et pourtant, Ésaü revient, sent qu'il va mourir, dit qu'il est affamé jusqu'à mourir, et décide de vendre son droit d'aînesse, donc sa priorité sur son frère, son autorité sur son frère, va vendre ça parce qu'il méprise son droit d'aînesse, et il le vend pour une vulgaire platée de lentilles. Et la Bible nous dit clairement, dans le verset 34 de Genèse 25, que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Méprisé le rang qui lui était donné. Quand on regarde tout ça, on dit ben ça a été arrangé par Dieu. Effectivement, Dieu a fait concorder les choses. Est-ce que c'est Dieu qui a fait en sorte que Ésaü méprise son droit d'aînesse? Non, non. C'est Ésaü qui a méprisé son droit d'aînesse. C'est Ésaü qui a décidé de mépriser ce droit d'aînesse. Est-ce que c'est l'Éternel qui a fait en sorte que Jacob, sous l'inspiration de sa maman Rebecca, trompe son père Isaac en se faisant passer pour Ésaü? C'est pas Dieu qui a menti. C'est pas Dieu qui a fourvoyé Isaac. Mais Dieu connaissait ces choses-là à l'avance. Alors, c'est pas parce que Dieu connaît les choses à l'avance que c'est nécessairement lui qui les établit. Il connaît les choses et parfois il les annonce. Et dans ce cas-ci, il a effectivement annoncé que la bénédiction ne passerait pas par la voie normale qu'on pouvait attendre et qui aurait été le fils aîné, mais que le fils cadet viendrait à supplanter son frère. Lorsqu'on parle de Jacob qui tient le talon de son frère, dans la culture juive, ça avait cette connotation de quelqu'un qui s'accroche au talon de son frère, de quelqu'un qui s'accroche à son aîné afin de le dépasser, de le doubler par la suite des choses. Ces choses-là ont été annoncées. La maman le savait. Le papa le savait. Et le jour de la bénédiction, on dit que la maman a voulu tromper le papa, que Jacob, le cadet, le Benjamin, a voulu tromper Isaac, son père, et fourvoyé par la même occasion, ou volé par la même occasion, son fils Ésaü. Mais ça serait vrai si Isaac n'avait pas été avisé. Isaac savait que dans le sein de sa femme se passait, en bon québécois, un switch, que l'ordre des choses était changé, que l'ordre des choses venait à être renversé. Et Isaac a tout fait pour que ça ne se passe pas. Et c'est là la clé de la compréhension du verset. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. En fait, Isaac a béni Jacob malgré lui, malgré sa propre volonté. En fait, celui qui a voulu tromper quelqu'un, c'est aussi Isaac qui a voulu tromper Dieu. Isaac qui a voulu aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Isaac qui a voulu s'opposer au plan qui avait été établi et aux choses qui avaient été annoncées en disant « Je vais faire les choses comme elles doivent être. Je vais faire les choses en faveur d'Ésaü, parce que je le préfère lui. » Dieu peut avoir choisi Jacob, Dieu peut avoir mis son dévolu sur Jacob, mais moi, je prends contrôle et je vais accomplir ma volonté à travers Ésaü. Isaac ici était fautif. La foi se manifeste lorsque Isaac comprend ce qui vient de se passer. Lorsqu'il réalise qu'à la place de bénir Ésaü, il a béni Jacob, il ne s'est pas levé pour dire « Hey, on renverse tout ça ». Il ne s'est pas levé pour dire « J'annule cette bénédiction ». Il s'est finalement soumis à la volonté de Dieu. Il s'est finalement soumis au plan qui avait été arrêté par Dieu. La grande question pour toi et pour moi, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, est-ce que nous nous y soumettons, est-ce que nous nous abaissons devant cette volonté délibérément et de façon instantanée, ou est-ce qu'on fait comme Isaac en essayant de contourner la chose et d'en faire à notre tête? Ça, c'est la première question pour toi et pour moi. Tu dis que tu as la foi, je dis que j'ai la foi. Mais cette foi amène une soumission à la volonté de Dieu. Est-ce que lorsque le Seigneur met un constat sur ma vie, il peut dire qu'effectivement je me soumets à sa pleine volonté? Ou est-ce que comme Isaac, je cherche à truquer les choses, à les mettre ou à mettre ces choses à ma sauce, soumises à ma volonté? Est-ce que je cherche à orienter les choses pour qu'il se passe comme je désire, ou je me soumets à la volonté de Dieu en disant, Seigneur, que toutes choses s'accomplissent comme toi tu le désires? Lorsqu'Isaac a compris ce qui venait de se passer, il s'est d'une façon repentante soumis à la volonté de Dieu en disant, je ne m'aventurerai pas à m'opposer encore à Dieu. Isaac a compris que Dieu avait fait outre sa pensée et que les choses qui devaient s'accomplir se sont accomplies. Pas de la façon que ça aurait dû s'accomplir. En fait, le plan était qu'Isaac puisse effectivement bénir délibérément Jacob et non pas Ésaü. Mais lorsque Isaac a été confronté à sa propre faute, à sa propre iniquité, à sa propre tentative d'aliéner le plan de Dieu, Isaac a dit, je ne prends pas d'autres risques. Je ne vais pas me fourvoyer moi-même et me mettre en danger. Je me soumets au plan et à la volonté de Dieu. Et cette fois-ci, j'embrasse la volonté de Dieu et je n'irai pas m'opposer à la main du Seigneur. Que se passe-t-il quand toi et moi, on est confrontés à la vérité qui émane de Dieu et qui nous dit, Florent, où tu mets ton prénom, tu es en train de t'opposer à mes voies. Est-ce que je cherche un coupable? Est-ce que je cherche une raison qui me justifierait? Est-ce que je m'entête dans mon raisonnement pour convaincre Dieu d'une manière ou d'une autre? Ou je dis, Seigneur, pardon, ta volonté est uniquement ta volonté. Ton plan est uniquement ton plan. Isaac, confronté à son erreur, confronté à son mauvais cœur qui cherchait à duper Dieu, va abdiquer face à la main de Dieu et dire, Seigneur, je devais faire les choses correctement depuis le début. Alors c'est par la foi effectivement qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. En raison de sa foi et à l'instar de son père qui a vécu aussi comme un étranger dans la terre promise, même sans voir l'accomplissement, Isaac a béni ses fils. Isaac voyait juste deux enfants, ne voyait pas de grande nation. Et il les a bénis avec cette mention qu'ils seraient, eux, des chefs de clan, des chefs de groupe. C'est par la foi qu'Isaac a béni. En raison de sa foi, Isaac n'a eu aucune retenue dans sa bénédiction prononcée. Lorsqu'on regarde la bénédiction qu'il a offerte, qu'il pensait offrir à Ésaü, mais qu'il a offerte à Jacob, il n'y a eu aucune retenue. Il a tout donné. Il a tout donné. Parce qu'il croyait effectivement que cette bénédiction s'accomplirait. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob. C'est en raison de sa foi que Isaac, ayant compris qu'on ne pouvait pas se jouer de Dieu, que sa volonté est immuable, Isaac n'est donc pas revenu sur sa bénédiction initiale, il a accepté la volonté de Dieu comme parfaite. C'est par la foi qu'Isaac a béni aussi son second fils au détriment du premier. En raison de sa foi, Isaac, lors de la bénédiction de ses fils, annonçait également que le deuxième Adam supplanterait le premier. Ici, il y avait un plan de Dieu pour servir de symbole annonciateur. Le fait que le deuxième fils vienne à supplanter le premier, c'est ce qui s'est passé avec Jésus, qu'on appelle le deuxième Adam, qui vient supplanter le premier Adam. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, dans les écrits de Paul, parce que par la faute d'un seul, la mort s'est propagée. Aussi par l'acte d'obéissance d'un seul, plusieurs ont été sauvés. Un premier Adam a amené la condamnation et la mort. Le deuxième Adam, Jésus, a amené la vie et le plan parfait de Dieu à accomplissement. Un peu comme Jacob et Ésaü, le plan parfait de Dieu passait par ce deuxième enfant qui supplantait le premier. Et lorsque Isaac a vu qu'on ne pouvait pas s'opposer au plan de Dieu, il s'est lui aussi assujetti. Lorsqu'il a été remis face à la vérité, lorsque ses plans mesquins de contrecarrer le plan de Dieu sont venus à avorter et qu'il a été confronté à sa propre duplicité, Isaac, humblement, de façon soumise, s'est courbé devant la volonté de Dieu en disant « Seigneur, je ne m'aventure pas plus loin, que ta volonté et strictement ta volonté s'accomplisse. » Pour nous aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Isaac, de Jacob, d'Ésaü, on parle effectivement de l'annonce du Messie. Où Dieu disait « Je vais bénir par un seul, Jacob versus Ésaü. Je vais bénir par un seul, le deuxième Adam versus le premier Adam, Jésus-Christ. » Cela doit nous amener aussi au fait que, très régulièrement, même dans la question du salut, nous essayons de trouver d'autres voies, d'autres façons. On essaie d'offrir à l'humanité une autre voie de salut. On essaie de contrecarrer le plan de Dieu en offrant d'autres voies de contournement. À travers les bonnes actions, à travers tout un tas de philosophies, en laissant croire que tous les dieux sont similaires, donc que toutes les voies de salut sont bonnes, que ce soit Jésus ou Allah, Mohammed, Bouddha, Confucius, Astarté, Baal ou autre. Et Dieu nous dit, il n'y en a qu'un seul. Un seul par lequel ma volonté s'accomplisse. Un seul par lequel nous puissions être sauvés. Christ Jésus, Dieu fait homme, qui est venu sur cette terre, acceptant de porter sur ses épaules mon péché, mon iniquité. Laisse-moi être très clair avec toi, mon ami, ce matin. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Tu ne peux pas être sauvé si ce n'est qu'à travers la mort et la résurrection de Jésus. Et à chaque fois que tu proposes une voie de contournement, à chaque fois que tu veux prôner une voie de contournement, que ce soit par le salut par les œuvres, que ce soit quelque autre philosophie, que ce soit l'adoption de quelque religiosité, que ce soit qui n'est pas Jésus, tu es en train de faire comme Isaac, qui dit, je sais quel est le plan de Dieu, je sais quel est l'unique plan de Dieu, mais je vais forcer ma volonté sur Dieu. Et tu nous amènes un Ésaü. Le plan de Dieu s'accomplit par Isaac. Le plan de Dieu s'accomplit à travers Jésus, seul et unique sauveur qui a été donné à l'homme. À moins que tu ne passes par Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Et à chaque fois que tu offres, que tu suggères une autre façon d'être sauvé, tu es en train de faire comme Isaac, qui dit « Je préfère Ésaü plutôt que Jacob. » Prions. Seigneur, nous reconnaissons ce matin qu'il n'y a qu'une seule voie de salut. Notre foi confirme qu'il n'y a qu'une seule voie de salut. Christ, Jésus. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nos actions ne peuvent pas nous sauver. Nos tentatives personnelles ne peuvent pas nous sauver. Et quelque autre pensée de cette terre, quelque autre philosophie de cette terre, ne peut pas nous sauver. Seigneur, nous qui t'avons reconnu comme Seigneur et Sauveur de nos vies, combien de fois on essaie de manipuler ta volonté? On essaie de s'en soustraire et d'imposer notre volonté, nos choix, nos désirs. Pardonne-nous, Seigneur. Et qu'on puisse revenir à cette sagesse qui vient de toi. Qu'on puisse revenir à ce point où, comme Isaac, nous abdiquons devant ta volonté, la sachant parfaite et la sachant immuable. Et puissions-nous embrasser cette volonté. Ta volonté pour nos vies. Ta volonté pour notre existence. Merci Seigneur pour ces quelques minutes qu'on a passées ensemble. Bénis mes frères, mes sœurs et toute personne qui entend cette parole. Et amène-nous tous et chacun à réaliser qu'il n'y a qu'un seul sauveur, une seule voie de salut, Christ Jésus, uniquement, seulement lui. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. J'espère que vous avez été bénis. Donc je rappelle, parce qu'on m'a dit hier que certains me cherchaient, les bénédictions matinales sont du mardi au vendredi. 4 jours, non plus 5, comme on l'a fait pendant 2 ans et demi. Dorénavant, c'est du mardi au vendredi. Et on se retrouve donc demain matin, 8h30, pour notre prochaine bénédiction matinale. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Et de grâce, ne tentez pas de vous opposer à la volonté de Dieu. Embrassez-la, elle est parfaite. Adoptez-la pour vous. Elle est la meilleure voie. Ce n'est que la seule voie qui mène à Dieu de toute manière. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.